Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et vous savez que la semaine dernière, nous avons parlé des armes de notre combat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a des armes. Dieu nous a donné des armes. Et les armes avec lesquelles nous combattons. Alléluia. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Ce ne sont pas des armes qui font du mal aux gens. Elles ne sont pas des armes violentes. Non, ce sont des armes puissantes. Elles sont puissantes, les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Dieu nous a équipés pour faire face au monde dans lequel nous sommes. Dieu a équipé les chrétiens de toutes les générations pour faire face au monde dans lequel ils se trouvent. Et nous pouvons tenir ferme si nous considérons ce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous sommes et ce que nous avons reçu. La parole de Dieu, avant de commencer le message sur les dons spirituels, car je vais vous parler des dons spirituels, j'aimerais qu'on regarde dans Marc 4, pour qu'on soit attaché à la parole. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ça veut dire, si vous vivez dans ma parole, demeurez, ça veut dire tous les jours de ma vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je continue de demeurer dans la parole. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous aurez une grande liberté. Alléluia. Regardons dans Marc 4 pour bien comprendre le travail de la parole. Lorsque nous tenons ferme, mais aussi lorsque nous abandonnons. Dans Marc 4... le verset 3, le Seigneur donne une parabole. Il parle à toutes sortes d'une grande foule qui était assemblée auprès de lui et il est allé dans une barque de façon à ce que sa voix porte. Vous savez, l'eau porte bien les voix et il a enseigné en parabole. Et vous avez donc Marc 4 au verset 3, il a dit « Écoutez ». Et il parle à tous ces gens, il leur dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et le Seigneur dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il réfléchisse, qu'il comprenne. Père, je te remercie pour ta parole. Ce matin, tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos pensées, tu ouvres nos oreilles, tu ouvres, Seigneur, nos yeux spirituels, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, plus loin, plus tard, les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Et il leur dit, bon, ben, je vais vous l'expliquer en fin de compte. Hein. Et regardez le verset 14. Il dit, le semeur sème la parole. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle semence. La parole est une semence. Et le semeur... Eh bien, c'est celui qui prêche, c'est le pasteur qui sème la parole. Amen. Chaque dimanche, nous recevons la parole. Chaque dimanche, il y a un message préparé pour nous, afin que nous recevions une pensée et une parole de Christ qui nous fortifie et nous encourage à aller plus haut et à aller plus loin. Donc, le semeur sème la parole. Et il parle de quatre personnalités, là. Les uns sont sur le long du chemin, où la parole est semée, quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les personnes qui ne persévèrent pas, qui entendent la parole, eh bien tout de suite l'incrédulité vient, le doute vient et le diable vole la précieuse semence qu'est la parole. Comment est-ce qu'elle est volée, cette parole, avec l'incrédulité et le doute? L'ennemi vient tout de suite. Et vous avez remarqué, lorsque vous étiez jeune chrétien, que vous aviez un combat avec le doute et l'incrédulité, n'est-ce pas vrai? Il y a eu un combat, mais vous avez résisté, parce que vous attachiez à la parole de Dieu. Mais derrière le doute et l'incrédulité, c'est le diable lui-même qui vient voler la parole. Il sait que la parole est une semence incorruptible, qu'elle a la puissance de transformer les vies, de changer même une nation. La parole est puissante. Et quand elle est déposée dans nos cœurs, eh bien, elle va produire un fruit et elle va produire des transformations. Et le diable est attaché à ce qu'elle ne produise rien dans nos vies. Alors, la première chose que l'on voit, c'est que les gens sont le long du chemin. Ils sont au bord, ils s'approchent et le diable vient et vole cette parole. Maintenant, nous avons deuxième personnalité, deuxième personne qui, en fin de compte, reçoivent la parole. Regardez, au verset 16, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans un endroit pierreux. Lorsque nous avons reçu la semence de Dieu, la parole de Dieu, nos cœurs étaient pierreux. Il y avait des pierres dans vos cœurs, il y avait des pierres dans mon cœur, il y avait toutes sortes de mauvaises choses, c'est vrai. » Mais nous avons persévéré, nous avons persévéré. Et petit à petit, les pierres ont été ôtées, purifiées, et la terre est devenue bonne. Mais ça s'est fait avec le temps. Regardez ces gens-là. Eh bien, ils nous disent qu'ils ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ils l'ont entendue, ils l'ont reçue d'abord avec joie. Amen. Ça, c'est la première étape. On reçoit la parole. Elle est merveilleuse, elle nous change. Mais il y a des situations adverses dans la vie. Il y a des problèmes. Et c'est cela le test. Les problèmes que nous rencontrons dans notre vie sont des tests. Est-ce que j'ai des racines? Est-ce que je vais tenir ferme? Est-ce que je vais garder la parole? Est-ce que je vais résister ou est-ce que je vais être balayé? Eh bien, vous voyez, ces deuxièmes personnes, c'est pourquoi je vous dis, l'Église a la responsabilité d'enseigner la semence et de donner, non seulement le dimanche, mais je parle aussi à tous ceux qui font les 7 semaines pour le changement, pour vous dire que ce qui est déposé dans vos cœurs est précieux et important. Cela vous change, c'est la semence incorruptible de Dieu qui permet à vos cœurs de ne pas se mettre en retrait, de ne pas abandonner, mais de commencer à prendre racine dans la parole. Parce que sans racine, on est balayé. Mais Dieu veut qu'on soit enraciné. Ça prend du temps, frères et sœurs. On persévère. Et voyez ces deuxièmes catégories de personnes. Ils reçoivent la semence dans des endroits pierreux, comme nous étions au début. N'est-ce pas vrai? Mais voilà, on a reçu la parole avec joie. Et puis, il y avait des blocages, des problèmes, des doutes, des incrédulités. Mais ces gens-là, regardez, ils ont manqué de persistance. Et regardez, je prends un peu plus haut là. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie d'abord, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est ça qui est grave. Or, les racines, vous le savez, nous sommes au printemps, vous êtes peut-être en train de planter quelque chose, vous savez que ça prend du temps. Planter par exemple du persil, c'est long. Vous le plantez ou semez de la pelouse, c'est long. Hein? Ça va prendre au moins 3-4 semaines avant de sortir une petite racine. Eh bien, pour nous, la parole, c'est la même chose. Elle doit s'enraciner et c'est avec le temps qu'elle va s'enraciner. Celui qui demeure dans ma parole est vraiment mon disciple. Il connaîtra la vérité a pour but de le libérer. La vérité de la parole a pour but de nous donner notre réelle identité et de nous libérer des mensonges de l'ennemi afin de régner avec Christ sur cette terre. Amen. C'est pourquoi ça prend du temps. L'enracinement, c'est un processus. Vous voyez ces deux personnalités-là. Les premières, eh bien, se laissent voler par le doute. Oh, je laisse de côté. Combien sont venus à l'église? Combien ont abandonné très vite? Parce que le doute les a pris, le monde les a volés. Ils sont partis en disant, c'est des histoires. Ils ont abandonné trop vite. Mais combien également ont reçu la parole avec joie? Et au bout d'un temps, eh bien, ils ont dit, oh, c'est toujours la même chose. Et bon, je connais tout ça. Et puis après tout, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et je vois bien que Dieu n'agit pas. Voilà ce qui se passe. Pourquoi? Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ça veut dire que c'est nous qui développons nos propres racines. C'est par notre attitude, c'est par notre façon d'être fidèle et de comprendre le travail de la semence. Alléluia. Jésus a montré ces terrains pour montrer que nos cœurs, eh bien, sont des terrains et que nos cœurs ont besoin d'être travaillés pour que la semence prenne, on peut dire, racine. Regardez, la semence, eh bien, ils la reçoivent dans les endroits pierreux. Et comme ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persévérance, ils manquent de persistance. Amen. Vous savez, le caractère chrétien, eh bien, est testé constamment. Dans notre vie, nous sommes testés. Est-ce que je vais mettre Dieu en premier ou est-ce que je vais laisser les problèmes de cette vie me submerger? Mais c'est un choix, c'est un test. Et ils disent, regardez, ils manquent de persistance ou de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils abandonnent. Pourquoi ? Ils n'ont pas de racines. Amen. C'est pourquoi nous devons bien comprendre que nous avons besoin de racines et nous enraciner dans la terre de la parole, dans la vision, dans ce que Dieu fait dans nos vies. Nous devons comprendre que ça prend du temps et que c'est la persévérance qui fait que ces racines vont produire quelque chose. Elles vont prendre les aliments, elles vont prendre les nutritions, elles vont nous faire de nous des hommes et des femmes forts dans le Seigneur. Amen. Ensuite, vous avez troisième catégorie de gens, c'est les gens qui la reçoivent parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui sont préoccupés par les choses de ce monde. Vous savez, c'est un chemin pour apprendre à mettre Dieu en premier. Parce que nous sommes tous préoccupés. Nous avons des familles, nous avons un travail, nous avons des objectifs. Dans la vie, c'est important et c'est normal. Et donc, si ces choses nous dominent et prennent la première place, le Seigneur aura une toute petite place. Et notre cheminement avec le Seigneur et avec la parole, c'est d'apprendre à mettre Dieu en premier. Et afin que les choses s'équilibrent. C'est important de prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son mari, de sa femme, de son travail, de la société dans laquelle nous sommes. Mais la priorité, c'est Dieu. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Alléluia, Dieu en premier. Et donc, voyez, ces gens-là, ils laissent les soucis de ce monde, les séductions des richesses. Ça veut dire que dans leur cœur, qui n'a pas été purifié, ils ont vraiment des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Ils ont des désirs qui sont ceux du monde. Et les désirs de ce monde vont en opposition et combattent les désirs de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, les séductions des richesses et l'invasion des convoitises. Et vous voyez, le problème du cœur humain, c'est que quand le Seigneur le purifie, la convoitise doit disparaître de nos vies. Hein, ça fait partie des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas, tu n'auras pas envie de la femme de ton prochain, ni qui que ce soit. Hein. On honore le mariage. Hein, que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quand tu rencontres un mari ou une femme, toi qui es célibataire, marié, tu respectes ce mariage. Et tu dis chasse gardée, hein? Tu ne dragues pas, tu n'as pas envie de quoi que ce soit, tu respectes, tu honores le mariage. Et vous comprenez que c'est important, Jésus l'a dit. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Les jeunes, des belles jeunes filles draguent des hommes d'un certain âge, fortunés, et avec des enfants, ils cassent des mariages, et hop, les choses se font comme ça parce qu'il y a de la convoitise. Et ces problèmes peuvent venir dans l'Église. Nous ne devons pas convoiter la femme de notre prochain, le mari de notre prochain. Nous devons dire à nos émotions, non, c'est chasse gardée. On ne peut pas laisser toutes nos convoitises aller comme il veut. Nous devons savoir que la maison de Dieu est un lieu saint, qu'il doit y avoir de la sainteté et on doit lutter contre ces esprits démoniaques de séduction et de convoitise. Tu ne convoiteras pas. Regardez les 10 commandements. Dieu nous a lavés, purifiés. Mais des fois, l'ennemi vient avec des choses comme ça. On doit les reconnaître et dire non, stop. Vous comprenez, frères et sœurs, je vous dis ça parce que j'entends des scandales qui se passent dans certaines églises avec ces esprits de convoitise où les gens se mettent à convoiter la femme du prochain, etc. Et où il se passe des choses comme dans le monde. C'est pourquoi je dis non, non, on ne convoite pas. Dès qu'on rencontre un couple marié, on l'honore. Il est marié. Vous, les jeunes gens, ne fréquentez jamais, n'allez jamais avec un homme marié, ne sortez jamais avec un homme marié à part. Ne faites rien parce que c'est une propriété privée. Vous devez le savoir, c'est un interdit. Ne touchez pas aux hommes mariés, aux femmes mariées. Et l'inverse, hein, vous, les célibataires. C'est très important. La sainteté, c'est d'abord respecter et honorer le mariage. Amen. Et ceux qui sont mariés, bien évidemment, ne convoitez pas les célibataires. Restez sérieux dans votre mariage. Hein. Vous savez, Job a dit, je n'ai fait aucun compromis avec mes yeux. Hein. J'ai fait en sorte de ne pas regarder les jeunes filles de façon à les convoiter. La convoitise est dans ce monde. Nous sommes soumis tous à la convoitise. Et quelquefois, on se surprend avec des pensées. On se dit, mais oh, d'où je sors ça ? Stop, on dit. On est tous soumis à toutes sortes de pensées. On est des êtres humains, mais on doit reconnaître les choses. Amen. Alors, ces gens-là, ils sont soumis à toutes sortes de convoitises. Et donc, la parole est étouffée. Elle ne règne pas. La semence de Dieu n'a pas d'autorité dans leur vie. Elle s'est étouffée. Amen. Lorsque je vous dis cela, vous n'avez qu'à lire, par exemple, Matthieu 6. Vous verrez comment on pratique la justice de Dieu. Ce que Jésus a dit, non, mais ne le lisez pas maintenant. Mais chez vous, vous lisez, par exemple, et vous verrez qu'il y a des commandements importants, parce que l'évangile, c'est un évangile de puissance, mais il y a des commandements que Dieu nous appelle à suivre. Amen. Donc, la convoitise est un problème du cœur humain, de la chair. Et lorsqu'il y a cette convoitise, la parole est étouffée. Elle ne produira rien, parce que les convoitises sont trop fortes. Si on laisse notre chair prendre la direction de notre vie, on est vraiment dans de gros problèmes. La convoitise viendra, les choses de ce monde reviennent très vite. Vous savez, les choses de ce monde reviennent très vite. Quand vous abandonnez les choses de Dieu, le monde revient, mais comme une vieille couverture pourrie, il vous écrase et les convoitises reviennent, les mauvaises habitudes reprennent. On retombe très vite si on n'a pas de racines. Mais si on a des racines, aucun problème. On reste avec Dieu, on persévère avec Dieu, on tient ferme. Parce qu'on a des racines, et des racines dans la parole de Dieu. On sait maîtriser notre chair. Vous savez qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas céder à toutes les passions, je ne vais pas céder à toutes les convoitises. Je vais dire non à ce qui est de la chair. Il y a des gens qui se laissent aller à tout ce qu'ils ont envie. Non, non, il faut dire non. Hein, l'apôtre Paul a dit « Je tiens ma chair, mon corps assujetti, afin que moi qui ai prêché aux autres, eh bien je ne sois pas jugé moi aussi, je ne tombe pas, je n'ai pas les mêmes problèmes que les autres, alors je fais attention à ma chair. » Et dans la chair, vous prenez Galates 5, il y a des convoitises, il y a des désirs qui ne sont pas bons. La chair a des désirs contraires à ceux... On est tous des êtres charnels, mais on a reçu Christ. Donc on a la capacité de lutter. Et ce n'est pas une lutte difficile, c'est simple. Il suffit de dire non, cette pensée ne vient pas de moi. Non, je ne convoite pas la femme de mon prochain, je ne convoite pas le mari de mon prochain. Non, ils sont mariés, j'honore le mariage, je respecte. Vous comprenez, c'est des bases tellement simples. Mais il faut les redire dans l'Église. Parce que dans le monde, c'est l'opposé qui se fait. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est honoré dans ce monde. Amen. Bien, alors regardez ce qui se passe. La parole est étouffée. Ça veut dire la parole ne peut produire le fruit qu'elle doit produire. Et à ce moment-là, eh bien, ces gens-là retournent à ce qu'ils ont. Ils ont des tourments, ils ont des combats, et leur vie n'est pas en bénédiction. Ça vient d'eux. Amen. Et mais regardez, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent. Entendent, ça veut dire ils l'écoutent. Ils l'écoutent pour recevoir. Ils sont attentifs à cette parole. Ils écoutent la parole. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Je reçois ta parole, Seigneur. Ouvre mon cœur. Je veux apprendre, je veux comprendre, je veux avoir soif. Je ne veux pas être déjà rassasié avant d'avoir commencé de manger. Je veux avoir faim. Je veux avoir soif. Ces gens-là, vous voyez, c'est nous. Là, c'est nous. Nous voulons être là, en tous les cas. Hein ? Nous recevons la parole, alléluia, nous l'entendons, nous la recevons et nous portons du fruit. Parce qu'à partir du moment où la parole est reçue, elle va développer en vous des fruits surnaturels et spirituels. Amen. Pourquoi je vous dis ça ce matin, frères et sœurs ? Pour que vous soyez encouragés à persévérer dans l'enseignement. Amen. Dans ces 7 semaines que certains font fidèlement et qui reçoivent des enseignements. Pour certains, vous dites, je connais, c'est des bases. Mais les bases sont toujours bonnes. On a toujours besoin de recevoir les bases. On a toujours besoin de réapprendre l'importance, ce qu'est l'Église, ce qu'est la famille de Dieu, ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que Dieu nous a donné. On en a besoin. Alléluia, c'est pourquoi ça nous fait du bien. Donc, je voulais vous donner cela avant d'aller plus loin ce matin, de vous rappeler que votre cœur est un terrain, une terre, et que vous avez besoin que la parole ne soit pas étouffée, afin qu'elle produise de bons fruits, et que plus la parole est semée, alléluia, au cours des mois et des années, elle produira de grands fruits. Où est la Monique, je parle de moi, quand, qui s'est convertie il y a plusieurs dizaines d'années? Je n'ai plus rien à voir avec cette fille-là. Pourtant, je suis la même, mais la parole a produit en moi des changements, des transformations. Elle m'a ouvert des horizons. Elle m'a établi, elle m'a fait comprendre le but de la vie. Elle m'a transformé jour après jour. Et ça, c'est la parole. C'est Dieu qui l'a fait en moi. Hein? Et quand je pense à moi, quand je pense à la jeune femme que j'étais, quand je pense à mes inquiétudes, mes angoisses, mes insécurités, quand je vois la force que Dieu m'a donnée, je dis, mon Dieu, ta parole est une semence qui a travaillé en moi et qui continue de travailler, qui continue, alléluia, qui ne s'arrêtera pas. Amen. Alors ce matin, vous voyez, la parole est une arme puissante, mais également nous allons besoin de voir que Dieu nous a donné sa puissance, qui sont les dons spirituels. Et ce matin, nous allons prendre 1 Corinthiens 12. Parce que vous voyez, frères et sœurs, quand Jésus a dit dans Acte 1, je vais quand même le lire, ne bougez pas. Hein, Acte 1, le Seigneur dit... Voilà, après qu'il eut souffert, je vous le lis rapidement, hein, il s'est montré à eux et il leur dit, comme il se trouvait au verset 4 avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et donc les disciples demandent des questions, mais Jésus ne leur répond pas tout de suite. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, l'Église n'était pas encore née. L'Église, qui est l'assemblée des croyants, l'Église, le corps de Christ n'était pas encore là, mais le Seigneur a dit, attendez maintenant, vous avez vu ma résurrection, vous êtes témoins, je vous ai enseigné pendant 40 jours des choses du royaume, de la puissance de Dieu, maintenant, allez dans la chambre haute, attendez. Le Père va vous envoyer quelque chose de puissant, c'est une puissance survenant sur vous, et là vous allez être des témoins, et là vous allez changer votre monde, vous comprenez? Nous avons reçu la même puissance, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, sur vous. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit est en nous, ça c'est pour la résurrection, ça c'est pour vivre dans le royaume de Dieu. Mais la puissance, c'est pour transformer notre monde ici-bas sur la terre. Nous avons besoin, la puissance nous est donnée pour régner, vivre dans le royaume de Dieu sur la terre. Vous recevrez une puissance. Exousia, ça se dit en grec, ça veut dire puissance miraculeuse. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est le chapitre 1 de Acte. Et le chapitre 2, eh bien, ils étaient tous assemblés et il est survenu cette puissance. Regardez, hein, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues survinrent. Ce sont des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Tout le monde, femmes, hommes, ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et au chapitre 3, vous avez la manifestation du Saint-Esprit avec la guérison des gens. Hein? Donc voilà, maintenant nous allons voir 1 Corinthiens 12. Alléluia, parce que le Saint-Esprit veut se manifester en puissance. Et donc prenons 1 Corinthiens 12 ce matin. Afin que nous comprenions que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans les dons du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit se manifestera toujours au travers des 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu descend, elle va se manifester au travers des dons du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Alors regardons 1 Corinthiens 12. Parce que vous voyez, nous avons reçu cette puissance. Vous parlez en langue. Je parle en langue. Mais sachez bien que ça, c'est, nous le verrons plus tard, c'est pour nous édifier. Mais dans la puissance que nous avons reçue, et vous l'avez, je suis fort, alléluia, n'est-ce pas? Par la force du Seigneur, par son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est à la droite de Dieu, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui est à l'église. qui est dans l'Église, pour l'Église, avec vous. Il n'est pas ailleurs qu'avec vous. Le Saint-Esprit est là, sa puissance est là, alléluia, et c'est au travers des dons spirituels qu'elle va se manifester. C'est une chose d'avoir reçu la puissance, vous voyez, les disciples ont reçu, mais il y a eu manifestation de la puissance. Ils ont parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues. Alors je vais vous dire une chose très importante. Premièrement, les dons du Saint-Esprit viennent du ciel. Ça ne vient pas de la terre, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit vient d'en haut. Il est saint, il est glorieux. Ce que vous avez reçu, vous devez réaliser, ça vient d'en haut. Ça vient du royaume de Dieu sur nous. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fabriqué sur la terre. Ça vient du royaume, du trône de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Cette puissance qui est venue sur vous. Alléluia. Amen. Comme à la Pentecôte, nous l'avons reçue. Et c'est une puissance surnaturelle qui vient de Dieu. Alors vous voyez, quand nous lisons 1 Corinthiens 12, nous voyons qu'il y a 9 dons. On va les lire. Dans l'Ancien Testament, seulement 7 dons étaient manifestés. Dans l'Ancien Testament, 7 dons. Mais dans le Nouveau Testament, nous en avons 9. Il y a 2 dons spirituels qui sont manifestés, alléluia, qui sont attachés à la Nouvelle Alliance, c'est le parler en langue et c'est l'interprétation des langues. Hein? Mais ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Autrement, tous les dons étaient également dans l'Ancien Testament. Alors, on va voir ce que c'est que ces 9 dons. Hein? Il y a, vous avez avec moi 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Frères et sœurs, les dons spirituels répondent à tous les besoins de ce monde. Tous les besoins de ce monde au travers des dons spirituels peuvent être résolus à travers la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Tous les besoins de ce monde à travers les dons spirituels. C'est pourquoi c'est important ce matin que nous mettions vraiment, que nous considérions ce que nous avons reçu. C'est pour le bien de tous, les dons. C'est pour l'utilité, non seulement le bien, mais c'est utile. Ça va faire avancer le royaume de Dieu, ça va faire avancer les vies, ça va transformer les choses. C'est puissant, les dons spirituels. Dieu a doté son Église de dons. Ça vient du ciel, frères et sœurs, c'est surnaturel. Est-ce que vous êtes attachés au surnaturel? Ou est-ce que vous ne voyez que ce qui est naturel? Au niveau de notre naturel, hein, entre guillemets Adam, notre héritage adamique, celui qui a péché, nous ne voyons que ce qui est rationnel, que ce qui est naturel. Mais nous avons le dernier Adam, c'est Christ en nous. Et là, nous pouvons nous attendre au surnaturel. Seigneur, je veux du surnaturel. Je veux voir des miracles. Je veux voir ta gloire. Amen. Je veux voir la manifestation de ton esprit dans nos vies, dans nos besoins. Là où nous avons besoin d'un miracle, Père, nous voulons voir la manifestation de ton esprit. Amen. Alléluia. Alors, regardez, c'est pour l'utilité commune. Amen. C'est donc, en effet, à l'un, alors, est donné par l'esprit, une parole de sagesse, nous allons voir ce que c'est. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Alors, attendez que je vous lise la fin. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Ça veut dire que suivant les occasions, suivant les situations, les dons vont entrer en action si vous êtes en communion avec Dieu. Les dons vont se manifester suivant votre besoin. Tous les dons ne se manifestent pas en même temps, mais plusieurs peuvent se manifester pour des besoins particuliers. Amen. Donc c'est très important que nous comprenions que quand nous avons reçu, la puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu les dons du Saint-Esprit dans cette manifestation que nous avons eue. Si nous parlons en langue, il n'y a pas que le parler en langue. Si nous croyons que le Saint-Esprit, alléluia, c'est que parler en langue, ça, alors là, on passe à côté. Il y a le parler en langue nécessaire, c'est le signe de la Nouvelle Alliance, c'est vrai, c'est le signe de la Pentecôte, mais il y a les 9 dons, alléluia, et nous avons besoin de saisir que ces 9 dons, ils sont donnés pour le bien de tous, ils sont nécessaires, alléluia. C'est pourquoi il est dit que, oh là là, nous devons nous attacher à ces dons. Et nous devons aussi demander à Dieu de nous en donner plus, car il est dit, rechercher l'amour, dans 1 Corinthiens 14, hein, rechercher l'amour, parce que les dons et l'amour de Dieu, l'amour agapé, ça marche ensemble. Vous me suivez? Je ne parle pas de l'amour naturel, je parle de l'amour de Dieu en nous. Rechercher de vivre dans cet amour surnaturel que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit et aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire, comment je peux aspirer? Je demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'équipes davantage. J'ai besoin, nous avons en tant qu'Église besoin de plus de dons spirituels. Amen. Alléluia. Donc, regardons maintenant, il est dit là qu'un seul et même esprit, ça veut dire qu'il y a de l'unité dans les dons, hein, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Alléluia. Donc, il est dit que nous ne devons pas être ignorants des dons. Regardez dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Alors, l'ignorance ne sera pas bénie. Vous voyez ? Dieu ne peut pas bénir l'ignorance. L'Église a la responsabilité d'apporter la connaissance, parce que c'est la connaissance de Dieu que Dieu va bénir. C'est ce que nous connaissons dont on va se saisir. Vous me suivez, frères et sœurs, là ? L'ignorance, c'est quelque chose de catastrophique. Quand on devient chrétien puis qu'on n'a pas d'église locale et qu'on va dans la ville errant, disant « j'aime Christ », au bout de 8-10 jours, mais il ne reste plus rien, parce que la connaissance ne peut pas venir. Chaque personne, chaque chrétien a besoin de son église locale pour s'enraciner et avoir la connaissance de Dieu qui grandit dans sa vie, afin de porter des fruits pour Dieu. Alléluia. Donc l'ignorance, c'est une catastrophe. Et le diable, hein, lorsqu'il s'est attaqué à l'Église, dans cette société, dans ce pays notamment, hein, s'est attaqué aux chrétiens. Hein, sous Louis XIV, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. Après, vous connaissez les terribles... comment ça s'appelle, la reine Margot et tout ça. Hein, donc le massacre de la Saint-Barthélemy, où on a tué des milliers de protestants parce que ces gens étaient attachés à la parole de Dieu. Et le diable, quand il peut détruire la foi dans la parole, alors après il peut raconter n'importe quoi, les gens vont s'attacher à des religions et à des fables. Et donc on voit qu'il y a eu un combat dans ce pays, qu'on a des ancêtres qui ont payé de leur sang et de leur vie, leur foi, qui ont été au bûcher et sont morts pour la foi. Aujourd'hui, l'Église est forte. Aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes des semences puissantes et fortes parce que nous avons la parole, parce que nous pouvons lire la Bible et nous pouvons recevoir la connaissance de Dieu. Et la connaissance, elle est faite pour vous libérer. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des gens libres. Parce que la connaissance de Dieu vient pour que vous l'adaptiez à votre vie, pour que dans votre vie, vous ayez la victoire dans votre mariage, la victoire pour vos enfants, la victoire pour vos finances. C'est pour vous, alléluia, et également la victoire dans votre vie spirituelle, pour que vous ne viviez pas en individualiste, mais avec cette communauté de chrétiens qui marche dans la même direction. Amen. Alléluia. Donc, voyez, les dons spirituels, dit l'apôtre Paul, il ne faut pas que vous soyez ignorants. Et lui-même dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, parce qu'avant, vous suiviez des idoles qui étaient muettes, vous aviez des faux dieux, mais aujourd'hui, vous connaissez le Dieu vivant. Or, les dons spirituels, alléluia, vous ont été communiqués par le Saint-Esprit et vous avez besoin de découvrir ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Alors, on va voir un petit peu les dons, comment ça se présente. Il y a 3 catégories de dons. Amen. 3 catégories de dons. Il y a premièrement les dons de révélation. Hein, il y a des choses que Dieu va vous donner, va vous montrer par révélation. Hein? Comme croire en Dieu, c'est une révélation. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, agit par révélation. Comment vous êtes devenu croyant? C'est surnaturel. C'est une révélation du Saint-Esprit qui vous a révélé Jésus. Le Saint-Esprit révèle toujours qui est Jésus. Le Sauveur du monde vous révèle ce qu'il a vécu sur la croix. C'est par révélation, c'est pas dans votre tête. Vous ne pouvez pas le concevoir. L'être humain ne peut pas concevoir Dieu. Il a une idée de Dieu, il sait qu'il y a un Dieu qui a dû créer des choses parce qu'il n'est pas trop bête. Des fois, il se dit, ouais, ce monde, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein? Mais c'est tout. Mais comment le connaître? C'est par révélation. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Dieu se révèle. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle. Il choisit des gens. Il se révèle à eux. Et ils ont d'un seul coup une connaissance de Dieu. Et je dis, ah, Dieu est là. Il nous a donné un sauveur. Il est mort sur la croix. Il a porté mes péchés. Je le crois. C'est une révélation. C'est beau. Le Saint-Esprit apporte la révélation. Trois dons de révélation, dans la parole de Dieu que vous avez là. Il est dit, donc c'est, je vais vous le dire, les dons de révélation, donc c'est la parole ou le discours de sagesse. Alors, le don de sagesse, la parole de sagesse, on verra tout à l'heure que le Seigneur a beaucoup utilisé ce don. Eh bien, c'est quelque chose qui vous avez une révélation du futur. Hein, la sagesse de Dieu dans le futur, c'est le don de révélation en ce qui concerne la sagesse. Hein. Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça a un rapport avec le futur. Hein. Par exemple, Jésus, quand il était vers le temple, vous savez que ses disciples lui disent « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et quand sera ton avènement ?» Et Jésus va leur dire « Regardez le temple. Eh bien, de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est une révélation du futur. Jésus, vous dites, il est Dieu, il était Dieu, il sait tout. Non, Jésus a choisi sur la terre de recevoir le Saint-Esprit pour nous montrer le chemin. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à travers les dons du Saint-Esprit. Amen. Il l'a choisi. Il a choisi de laisser sa gloire, sa divinité. Il était un homme parfait, sans péché, mais il avait besoin des dons spirituels. C'est pourquoi il a été baptisé du Saint-Esprit. Très important, frères et sœurs. Il nous a montré le chemin pour nous. Si lui nous a montré ce chemin, nous comprenons bien que tout ce qu'il a fait, il l'a fait au travers des dons, vous allez voir. Et donc, nous aussi, nous avons des dons. Et ces dons, nous avons besoin d'aspirer à ces dons et de demander à Dieu de nous en donner beaucoup, de grandir dans les dons spirituels. Alléluia. Donc la parole de sagesse, c'est le futur. Matthieu 24, Jésus a parlé du futur. C'est à travers le don de sagesse. La sagesse de Dieu lui était révélée à travers ce don. Hein? Voilà les événements qui vont se produire dans le futur. Ensuite, le deuxième don de révélation. Hein? Je vous dis, vous allez voir trois catégories de dons. Premièrement, les dons de révélation. Hein, souvent, les prophètes ont ces dons. Mais nous aussi, nous avons des révélations. Nous aussi, nous recevons des paroles de sagesse. Nous aussi, Dieu peut nous parler pour l'avenir, nous dire des choses. Hein? Il l'a fait dans ma vie souvent. Parole de sagesse, parole de connaissance. Mais il faut le reconnaître. Et donc la parole de connaissance, c'est un don hein, qui nous est donné. C'est un don qui révèle un fait présent ou passé que seul Dieu peut connaître. Hein? Alors je répète, c'est un don hein, qui révèle un fait passé ou présent que seul Dieu peut connaître. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Hein. Je me rappelle une fois, on était avec une jeune femme qui avait des gros problèmes. En fin de compte, elle avait un démon, elle avait besoin d'être libérée, et on n'arrivait pas à la libérer. Et on s'est mis à prier, et donc Dieu m'a montré une chose qu'elle avait fait, dont elle ne se rappelait pas, et qui bloquait. Hein. Alors Dieu m'a montré quelque chose dans son passé, hein? Et donc quand je lui ai dit, elle a dit oui. Alors on a prié ensemble, elle a demandé pardon à Dieu, le démon est parti. Vous voyez, ça c'est une parole de connaissance. Mais ce n'est pas avec ma connaissance naturelle que je pouvais savoir. C'est quelque chose qui remontait à son enfance, qu'elle-même avait oublié. Donc Dieu peut vous donner des choses importantes, non pas avec votre tête, mais là, avec, par votre esprit, et ce sont des dons. Les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Amen. Alors, trois catégories de dons. Première catégorie, les dons de révélation. Parole de sagesse, l'avenir. Parole de connaissance, les choses présentes ou passées que seul Dieu connaît. Hein? Et ensuite, vous avez le discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est? Hein? Le discernement des esprits, ce n'est pas le discernement des démons. C'est le discernement des esprits. Il y a trois catégories d'esprits dans ce monde. Il y a les anges, il y a l'esprit humain, premièrement. Il y a les anges et il y a les démons. D'accord? Donc, c'est le discernement des esprits. Je me rappelle la première fois que le pasteur Salvarage m'a vu, le Seigneur lui a dit une bonne parole sur moi. Hein? Il m'a dit, elle a un très bon esprit. Et donc, à l'époque, il se méfiait un petit peu des personnes. Hein? Et donc, Dieu lui a parlé à mon sujet. Et il lui a parlé sur mon esprit. Et quand il me l'a dit, ça m'a fait vraiment plaisir. Hein? Et donc, vous voyez, c'est l'esprit humain. Rappelez-vous de Jésus. En ce qui concerne, par exemple, Nathanaël, hein, c'est dans Jean chapitre 1. Jésus voit Nathanaël et il lui dit « Voici vraiment un Israélite chez lequel il n'y a pas de fraude. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il connaissait, par ce don qui s'appelle le discernement des esprits, il connaissait l'esprit de Nathanaël. Il a dit « Voilà quelqu'un qui est droit. Voilà quelqu'un qui ne trompe pas, qui ne vole pas, qui est honnête. » Vous voyez? Comment est-ce qu'il l'a su? Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, non, parce que Jésus a accepté de perdre sa divinité, mais il avait les dons spirituels à l'œuvre, vous comprenez? Et à travers le don du discernement des esprits, il a vu l'esprit de cet homme. Et il a dit, Nathanaël, je te vois et il n'y a pas de fraude en toi. Vous comprenez? Il agissait au travers des dons, Jésus. Et nous-mêmes, nous devons aussi sentir les esprits des gens quand Dieu nous les montre. Quelquefois des gens que nous ne connaissons pas, hein, mais Dieu, ce don n'est pas utile tout le temps, c'est comme Dieu veut, selon notre besoin. Amen. Mais voyez, des fois, vous savez que dans les églises, malheureusement, il arrive que l'ennemi envoie ce qu'on appelle des loups, des gens qui sont mal intentionnés, qui viennent pour faire du mal au troupeau de Dieu. Eh bien, il y a intérêt que le pasteur ait du discernement, et notamment le discernement des esprits. Comment ça va se produire? Il aura une gêne, hein, le pasteur, et il sera gêné. Il y aura quelque chose qui fait que quelque chose qui ne va pas. Il ne sait pas pourquoi, mais s'il demande à Dieu, le Seigneur lui révélera qu'il y a un problème. Alors, il devra être prudent, hein, et faire attention. Vous comprenez? C'est le discernement des esprits. Vous-même, dans votre vie, ce discernement peut agir avec des personnes que vous fréquentez pour vous mettre en garde. Donc, il n'y a pas que les démons, parce que c'est vrai qu'il y a les démons aussi, c'est important, hein, de voir les démons et les anges. Le discernement des esprits vous montre aussi les anges. Il y a des anges, des fois vous sentez la présence des anges dans les moments de prière chez vous. Il y a la présence des anges. Amen. Donc ça, c'est les trois dons de révélation. Vous me suivez? Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie de dons. Tout ça, c'est donné par le Saint-Esprit. Les dons de puissance. Et nous en avons besoin dans l'Église. Alléluia. Qu'est-ce que c'est les dons de puissance? Premièrement, le don de la foi. Alors, vous savez que nous avons foi. Hein, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi que tout le monde a. Mais le don de la foi opère différemment. Hein? C'est une force qui vient sur vous soudainement, qui vous donne de faire quelque chose de surnaturel à un moment donné. Vous savez que vous savez que vous savez que vous devez faire ça. Et vous avez une force surnaturelle pour le faire. C'est le don de la foi. Hein? Donc c'est une foi différente, est-ce que vous me suivez là mes amis, de la foi qui vient de la parole. Hein? C'est une foi différente. Dieu la donne comme il veut. C'est lui qui vous la donnera comme il veut, pour un moment particulier, et cela vous permettra de faire des exploits. Par exemple, vous voyez, Jésus, quand il a ressuscité Lazare, eh bien, il y a plusieurs dons qui se sont manifestés, mais il y a, bien sûr, le don de la foi. Hein? Lorsque Jésus a crié « Lazare, sors !», la foi, ce don surnaturel était à l'œuvre. Il n'y avait pas que ce don-là, hein? Parce qu'il y a eu le don des miracles, bien sûr, mais vous voyez, ce don était à l'œuvre. Parce qu'il savait, il savait, il savait que Lazare était ressuscité. Amen. C'est une foi surnaturelle, extrêmement puissante. Hein? Donc ça, c'est le don de la foi. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a rendu grâce, il savait que la multiplication allait se faire. C'est le don de la foi. Ce n'est pas la foi naturelle que nous avons, c'est quelque chose de surnaturel. La foi est surnaturelle de toute façon. Mais c'est quelque chose de puissant qui vient pour un moment précis, qui est donné pour faire un exploit particulier. Amen. C'est un don surnaturel. Amen. Tous les dons sont surnaturels. Et la foi qui est dans notre cœur, la foi pour croire, la foi pour libérer la parole de Dieu, la foi pour croire dans les promesses, la foi pour prier est surnaturelle. Mais ce don-là est tout à fait particulier. Lorsque Jésus donc a multiplié les pains, eh bien, il est dit qu'il a fait asseoir, donc vous prenez ça dans Matthieu, je crois que c'est 14, il fait asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rend grâce, merci Seigneur. Puis ensuite il donne, alors qu'il a des milliers de personnes devant lui, il n'a que 5 petits pains et 2 poissons. Vous voyez un peu la scène. Si vous n'avez pas le don de la foi là, hein, vous ne pouvez pas le faire. Même avec la foi naturelle, il faut un don là, parce que c'est puissant. Vous devez nourrir peut-être 15 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, c'est tout petit. Mais le Seigneur a ce don-là qui se manifeste. Il casse les pains et il dit « Allez, distribuez ». Et ce qui se passe, c'est que dans la panière, eh bien, au fur et à mesure qu'il donne, eh bien, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'il y a aussi le don des miracles qui se fait. Le pain se multiplie, les morceaux de poisson se multiplient pour les 15 000 personnes. Mais le don de la foi était là. Lorsqu'il a dit « Allez, distribuez ça », il a rendu grâce et le don de la foi a opéré. Amen. Les dons de puissance sont très importants. Si vous vous sentez revêtu de puissance pour dire ou faire quelque chose, c'est le don de la foi qui est en train d'agir. Allez-y. Allez-y. Amen. Souvent, le don de la foi est intervenu dans ma vie. Je savais que je devais faire cela, je le faisais. Je le savais. Amen. Et vous aussi, vous devez le reconnaître, ça n'agit pas tout le temps, mais quand il est là, merci Seigneur, c'était avec le don de la foi que j'ai agi ainsi, que j'ai parlé ainsi, que je suis allé là, que j'ai fait cela, avec ce don à l'œuvre. Amen. C'est Dieu qui le donne, on ne le cherche pas. Nous, on a notre foi naturelle qui se développe, qui grandit, qui fait des prodiges aussi. Mais d'un seul coup, il y a une puissance qui vient. Là, oh, vous êtes revêtus. Et alors, vous ne pouvez pas. Alors peut-être on vous dira, mais fais pas ça, c'est fou, ne fais pas ça. Vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous avez cette foi pour faire telle et telle chose. Rien ne peut vous arrêter. Alléluia. C'est un don spirituel. Dieu travaille dans son église au travers des dons spirituels. Alors, les dons de puissance, il y en a 3. Le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. Hein? Notez-les, le don de la foi, on l'a vu, foi surnaturellement puissante pour faire quelque chose d'extraordinaire. Le don des guérisons, le don des miracles. Hein? Alors, je voudrais vous dire un mot pour le don des guérisons. Nous avons foi dans la guérison. Moi, j'ai foi dans la guérison, je crois dans la guérison, c'est ma foi personnelle. Hein? Mais il y a des gens qui portent une onction qui s'appelle le don de guérison et qui va se manifester dans la vie, hein, des gens, quelquefois. Hein? Et bon, mais ce don va opérer aussi dans notre vie, à nous personnellement. Quand vous allez prier pour les gens, pour les malades, vous avez la foi, alléluia, que quand vous imposez les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais le don de guérison va opérer au travers de vous aussi. Amen. Alors, il y a des gens qui ont des dons de guérison. Et il y a aussi l'Église qui est équipée avec des dons de guérison. Si vous avez foi dans la guérison, vous imposez les mains aux malades, vous savez qu'ils sont guéris. Amen. Ce don est très puissant. En ce qui concerne les guérisons, il y a plusieurs sortes de guérisons. Il y a des gens qui sont qualifiés pour guérir telle et telle maladie. Enfin, on suit notre cœur, hein. Mais le don des guérisons souvent opère comme un processus. La guérison vient dans votre corps et petit à petit, il y a des guérisons immédiates et il y a des guérisons qui prennent un processus. Vous devez le savoir. Et si vous n'êtes pas, vous pensez, oh, j'ai encore mal, eh ben, vous n'avez pas de foi. En vérité, quand on a prié pour vous, la guérison a été établie à travers la prière. Ensuite, c'est un processus. Même si vous avez les douleurs, vous dites, j'ai reçu ma guérison. Elle est à l'œuvre dans mon corps, elle est en train de se manifester. Amen. Donc il y a toutes sortes de guérisons, il y a plusieurs sortes de guérisons, mais souvent, Dieu travaille au travers de nos corps comme dans un processus de guérison. Hein? On a souvent prié pour des malades, même des gens qui avaient des cancers, et petit à petit, la guérison s'est établie dans leur corps. Certains ont été guéris surnaturellement d'un seul coup, et d'autres ont suivi le cheminement normal avec les soins à l'hôpital et tout ce qu'il y avait, mais ils ont été guéris. C'est ça qui compte, c'est que le processus était en place. Amen. Donc, il y a les guérisons et le don des miracles. Hein? Donc, trois dons de puissance. Alléluia. Et donc, on voit que Jésus a beaucoup utilisé les dons de guérison et les dons de miracles. Hein? Alléluia. Vous savez, les boîtes marchaient. Les gens étaient totalement guéris partout. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient toucher le vêtement de Jésus. Hein? Depuis que cette femme de Marc... Marc 5 avait été guéri en touchant le vêtement de Jésus, ça s'était propagé partout. Et ben les gens voulaient toucher son vêtement pour être guéris. Ils étaient guéris parce que l'onction de guérison était sur Jésus. Et Jésus guérissait beaucoup de malades. Il prenait soin des malades. Nous, en tant qu'Église, nous devons prendre soin des malades. Si nous avons dans nos familles des gens malades, nous devons libérer notre foi et leur imposer les mains et prier pour eux. La maladie a été vaincue à la croix du calvaire. Nous ne devons pas la subir, nous devons la briser. Nous devons avoir une foi redoutable dans la maladie. Elle est un ennemi et nous devons imposer nos mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Amen. C'est très important. Et regardez dans votre évangile, Jésus a passé tellement de temps à guérir les malades. Hein? Et puis il y a le don des miracles. Hein? Le don des miracles, vous l'avez partout dans la Bible, n'est-ce pas? Par exemple, lorsque le Seigneur a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Vous vous souvenez, hein? Il est arrivé, les disciples étaient dans la barque, il y avait beaucoup de flots, de tempêtes, et Jésus est arrivé vers eux en marchant sur l'eau. C'est un miracle, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. C'est impossible. Pouf, vous enfoncez tout de suite. Il a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau avec la foi dans les miracles. Amen. Donc ça, ce sont des miracles. Lorsque le Seigneur s'est levé à ordonner à la tempête et au vent de cesser, c'est un miracle qui s'est produit. Il a fait libérer un ordre et le vent a cessé et la tempête a cessé. Amen. Le don des miracles, libérez-le dans votre vie. Amen. Moi, quand il y a des tempêtes, je vous dis, je sors dans la tempête, hein, et je commande au vent. Vous savez, j'ai eu des ennuis chez moi, on habite dans la campagne, hein, et quand il y avait des tempêtes, tout était massacré, les arbres cassés, c'était terrible. Hein? Et puis un jour, je me suis levée et je me bats contre la tempête au nom de Jésus, qu'elle ne touche pas, qu'elle ne casse rien, qu'elle ne fasse aucun mal, et elle ne fait aucun mal. Elle ne détruit rien. Mais avant, quand j'étais jeune chrétienne, on avait beaucoup de destruction chez nous. Les tempêtes passaient comme des ouragans autour de notre maison, c'était terrible. Ils ravageaient tout. Il y avait de la vigne vierge, une fois il ne restait plus d'une seule feuille sur la vigne vierge, il n'y avait plus que les racines, toutes les feuilles étaient parties, toute la maison avait été balayée comme ça, et partout. Donc vous ordonnez, amen, et vous avez autorité, vous libérez, et Dieu fait le miracle. Allez, vous croyez dans les miracles. Ce sont les trois dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracle et la foi. C'est ça. Et je termine avec cela, hein, je vois, les dons d'inspiration. L'inspiration vient de qui? Du Saint-Esprit. Amen. La prophétie, les dons qui viennent par l'Esprit. Ce n'est pas par votre tête, c'est par l'Esprit. Les dons d'inspiration, il y en a trois. Hein, et la prophétie faisait partie aussi de l'Ancien Testament. Vous voyez que les sept dons étaient tous dans l'Ancien Testament. Hein. Les prophètes avaient les dons de révélation et ils avaient les dons de puissance. Hein? Et il y avait la prophétie, bien sûr. Mais donc, dans le Nouveau Testament, nous avons en plus ces deux dons d'inspiration. Donc, la prophétie. La prophétie, alléluia, elle est faite pour édifier. Elle ne détruit pas, elle ne juge pas, elle ne condamne pas. Elle est faite pour édifier, bâtir. Quand il y a des prophéties, ça bâtit votre foi, ça vous fait du bien. Elle est faite pour édifier. Elle est faite pour exhorter et pour consoler. Amen. Donc, vous voyez, l'esprit de la prophétie, comme l'esprit de notre Bible. Alléluia. C'est un esprit qui exhorte, qui console, qui édifie. C'est l'esprit de la prophétie. Et lorsque nous prophétisons, nous devons avoir ça dans notre cœur. Je prophétise non pas pour juger, non pas pour faire des choses comme ça, ça c'est pas bon. C'est pas l'esprit de la prophétie. Vous devez juger des prophéties. On n'accepte pas les prophéties comme ça. Moi je ne les accepte pas. J'accepte une prophétie après l'avoir entendue et à voir si elle correspond à quelque chose qui est dans mon cœur. Je ne serai pas manipulé par une prophétie. Je dois savoir si cette prophétie correspond à ce que le Saint-Esprit me dit. Vous comprenez? Parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, les prophètes n'ont pas autorité sur nous pour diriger nos vies. Nous devons écouter la prophétie et la recevoir dans la mesure où elle confirme quelque chose dans notre cœur. Amen. Dieu confirme. Très important pour que les gens ne soient pas manœuvrés. Il peut y avoir, il n'y en a pas, j'en connais pas, mais des faux prophètes, des gens qui manipulent les autres, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc la prophétie, elle exhorte, elle console et elle édifie. Hein. C'est l'esprit de la prophétie, gloire à Dieu. Et donc vous avez ensuite le don des langues et l'interprétation des langues, vous l'avez dans les actes, hein, vous avez vu, acte 2. Ils ont eu le don des langues, ça veut dire qu'ils se sont mis à parler des langues, et je vais m'arrêter là, ils se sont mis à parler en d'autres langues, mais Dieu leur a donné le don des langues, ça veut dire que des gens ont compris dans leur langue ce qu'ils disaient, alors qu'eux ne comprenaient pas. Hein, il y avait des Spartes, il y avait des Grecs, il y avait des gens qui venaient de différentes nations, ils avaient différentes langues, et eux, en parlant en langue, eh ben, les gens comprenaient ce qu'ils leur disaient. C'était le don des langues. Hein. Dans l'Église, quelquefois, il peut y avoir le don des langues. J'avoue qu'il ne se manifeste pas souvent. Mais quand il y a le don des langues, il faut qu'il y ait l'interprétation. Amen. Ça veut dire que dans l'Église, on doit tout comprendre. Hein, il nous arrive de chanter en langue. Hein, et de, voilà. Mais quand il y a un don spirituel, il faut l'interprétation. Amen. Voilà, frères et sœurs, on travaillera davantage sur tout ça la semaine prochaine. Mais je vous rappelle trois catégories de dons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez été baptisés de puissance. Vous avez reçu les dons spirituels. Vous avez les dons de révélation. Vous avez les dons de puissance. Et vous avez les dons d'inspiration. 3, 6, 9 dons. D'accord? Alléluia. Les dons de révélation sont très importants. Et je suis sûre que si vous réfléchissez, vous pourriez même écrire et vous rappeler quand ces dons ont agi dans votre vie. Il y a des choses que Dieu vous a dit, vous a conduit quelque part, vous savez que vous deviez y aller, hein, je pense à vous, Martine, vous êtes allé voir telle personne, etc., faire quelque chose. Il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire. Avec ce don de la foi, on y va, parce que ce don est à l'œuvre. Mais des fois, on ne sait pas que c'est par le don. Hein. Un jour, c'est une très belle histoire, ma nièce, qui est parisienne, m'appelle. En pleurant, elle me dit, tu sais, je connaissais bien son papa, Michel, et elle me dit, il faudrait, Benny, qu'est-ce que tu voudrais monter, parce qu'il va partir, etc. Je dis, t'inquiète pas, j'arrive, bouge pas. Alors, il était peut-être 2h de l'après-midi, hein, et je ne savais pas ce qui se passait, mais les dons sont manifestés en moi. Je savais que cet homme allait être sauvé, sur son lit de mort. J'ai pris ma voiture, je suis montée à Paris, je suis rentrée dans l'hôpital, hein, je n'ai vu que lui. Je suis allée vers lui et je lui ai parlé de Jésus et il a tout accepté et un sourire aux lèvres, il est parti vers le Seigneur. Eh ben, c'est avec les dons qu'on fait ça. Parce qu'il y avait toute la famille autour, c'est une toute petite chambre et c'était ses dernières minutes, ses derniers instants. Mais Dieu l'avait gardé. Je savais que j'allais arriver au bon moment. Je savais que ce que j'allais lui dire. Je passais mon temps à prier en langue, mais je ne savais pas à l'avance, je ne préparais rien. Mais tout s'est mis en place et il est parti vers le Seigneur. Amen. Les dons vous porteront pour faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. On va laisser maintenant la place au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je ne sais pas dans votre vie, mais je crois que les dons ont déjà agi. Est-ce que vous êtes capable de les reconnaître à la faveur de ce que nous avons dit? Et j'en reparlerai parce que c'est trop rapide, mais les dons opèrent dans nos vies. Amen. Les dons spirituels sont pour chacun de nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance. Et dans cette puissance, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce sont quoi? Les dons spirituels. La manifestation du Saint-Esprit se manifeste toujours par les dons spirituels. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin des dons spirituels. En tant qu'Église, Père, nous avons besoin de plus. Et nous te prions ce matin, afin que tu nous remplisses de ta puissance, Père. Afin que nous ayons une soif pour le surnaturel de Dieu dans nos vies, Père, que nous nous attendions à des miracles, que nous ayons et nous recevions, Seigneur, ta révélation, Père, nous avons besoin de plus. Et Père, nous prions tous ensemble ce matin, afin que tu nous baptises du Saint-Esprit puissamment, et que la puissance de Dieu nous remplisse, Seigneur, afin que les dons agissent au travers de nous, Père. Tu as dit, aspirez aux dons les meilleurs, Père, aspirez aux dons. Tu as dit ça pour tous les chrétiens. C'est pour nous, Seigneur, c'est pour tout le monde. Oh Seigneur, nous aspirons aux dons ce matin. Nous voulons les dons de révélation, nous voulons les dons de puissance, nous voulons les dons d'inspiration. Nous avons besoin d'être équipés davantage, Père. Nous voulons te demander d'agir dans nos vies et de nous donner davantage de révélation, davantage de puissance, Père, davantage de miracles, mon Dieu. Alléluia. Afin que nous agissions, alléluia, pour l'utilité commune, Seigneur. Alléluia, afin que nous soyons utiles pour le royaume de Dieu. Car c'est l'équipement du royaume, c'est l'arme puissante que tu as donnée à tes enfants, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Oh Père, prions ensemble, frères et sœurs. Demandons pour notre part à chacun que Dieu nous donne davantage de puissance, davantage de dons. Alléluia, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nous ayons des visions et des rêves. Alléluia, que nous voyons dans le spirituel, que nos oreilles soient ouvertes et nos yeux spirituels soient ouverts, afin de connaître ce que Dieu nous a donné par sa gloire, par sa grâce. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, Père. Donne-nous davantage encore. Alléluia. Et nous voulons prier par l'Esprit. Nous voulons prier en langue, Père, afin de nous édifier. Alléluia. Et de parler à Dieu. Nous parlerons la semaine prochaine de l'importance des langues. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.